Le journal de 8h vous est présenté par Mélina Fachin. Bonjour Mélina.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Et on va prendre tout de suite, Mélina, la direction de la Gironde et des Landes qui se réveille encore une fois au milieu des flammes ce matin.
7400 hectares de forêt sont partis en fumée ces trois derniers jours dans le secteur de Landiras, là même où 14 000 hectares avaient déjà été ravagés le mois dernier. Bonjour Guillaume Dominguez.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde. Quelques 1100 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes. Ils ont passé la relève ce matin aux équipes de jour. Le briefing vient de se terminer, Guillaume.
Oui, réunis autour d'une carte de la Gironde et des Landes sur laquelle apparaît en rouge les zones touchées par l'incendie, le chef d'opération des pompiers a commencé par faire un bref bilan de la nuit dernière. Selon nos informations, la nuit a été plutôt calme dans l'ensemble, hormis plusieurs reprises de feu près des communes de Belin, Bélier et Saint-Magne. C'est d'ailleurs sur ces secteurs que vont se concentrer les actions d'aujourd'hui. Un seul mot d'ordre, protéger les hameaux en lisière du feu. Le gaz et l'électricité ont d'ailleurs été coupés pour permettre aux canadairs de pouvoir larguer sans difficulté. Le balai aérien devrait commencer d'ici moins d'une heure maintenant, si les conditions le permettent. Des conditions sur lesquelles le chef des pompiers a longuement insisté. On attend ici 40 degrés aujourd'hui, un taux d'humidité inférieur à 20% et un vent qui va gagner en intensité au fil de la journée. Alors où je vous parle, les pompiers sont en train de monter dans les camions. Tous attendent maintenant le top départ de cette journée.
Merci Guillaume Dominguez en direct de la Gironde. Et pour venir en aide à leurs collègues français, des pompiers d'autres pays arrivent en renfort, Alexis de la Fontaine.
Concrètement, d'ici la fin de semaine, deux Canadair grecs et deux Air 14 suédois arriveront. Mais les renforts sont également terrestres. Hier soir, 64 pompiers et 24 camions allemands sont arrivés avec 77 agents roumains. Alors que ce midi, 146 pompiers polonais et 73 autrichiens sont attendus avec 63 véhicules. Une initiative saluée par Emmanuel Macron sur Twitter qui a remercié ses partenaires européens pour leur solidarité.
Alexis de la Fontaine du service politique.
Et la canicule qui sévit n'arrange évidemment rien à la situation.
La Gironde, les Landes et 17 autres départements de l'ouest de la France sont en vigilance orange canicule aujourd'hui. Et c'est quasiment tout le pays qui suffoque toujours à cause d'une sécheresse historique. Le plus long fleuve de France, la Loire, est presque à sec par endroits. Reportage de Thibaut Huy à Orléans.
La Loire, vous l'aviez déjà vue comme ça ?
Non, jamais. Là, honnêtement, ça fait 10 ans que j'habite sur Orléans et j'ai jamais vu aussi basse. Bah là, j'ai jamais vu autant de bancs de sable. Ça fait penser un peu à un désert. Des arbres qu'on fanait totalement.
Il paraît qu'elle est tellement sèche qu'on peut aller de l'autre côté à pied. Est-ce que c'est vrai ?
C'est vrai. On peut traverser sans avoir besoin de nager, quoi, maintenant.
Est-ce que vous pouvez m'emmener ?
Ouais, carrément, avec plaisir. Allez, enlève tes chaussures, mets ton maillot, on y va. Là, c'est tout léger, on dirait une petite pâte au genre, quoi. On a de l'eau même pas jusqu'au genou et...
Et d'habitude, c'est comment ?
Bah d'habitude, on a papier. On a de l'eau jusqu'au cou, hein. Alors, on va par où ? On arrive sur le deuxième banc de sable qui est en plein milieu de la Loire, qui est normalement pas accessible à pied. Très sec, hein. Là, on sent qu'il y a plus d'eau depuis longtemps. Ouais, c'est inquiétant, hein, parce que moi, je fais beaucoup de paddle sur la Loire, de base. Ça fait un an et demi que j'en fais et j'ai jamais vu la Loire aussi basse. J'ai toujours connu la Loire haute, toujours connu les inondations, les crues et tout. Ok, bah voilà, on vient d'arriver, on est de l'autre côté de la Loire, on n'a pas eu trop de mal à traverser.
Voilà, hein, quand on va un peu plus loin sur le bord, on peut même croiser des gens qui pique-niquent. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici ?
On est venu en vélo et à pied, et puis une serviette, on essaie de profiter un minimum du peu d'eau qui nous reste, quoi.
Et malheureusement, la situation risque de durer ici, pas de pluie prévue sur Orléans et ses environs, alors la Loire devrait continuer de descendre et descendre pour atteindre bientôt un niveau historiquement bas.
Reportage en immersion de Thibaut Huy à Orléans. Les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre viennent de tomber. Le nombre de personnes sans emploi est quasi stable à 7,4% de la population active, selon l'INSEE.
8h05 sur Europe 1. Dans l'actualité également, cette prouesse médicale menée par des chercheurs américains. Une prouesse qui a retenu notre attention ce matin.
Et elle va donner beaucoup d'espoir à tous ceux qui sont en ce moment en attente d'une greffe. Vous savez à quel point les délais peuvent être longs. Eh bien, ces chercheurs de l'université de Yale ont réussi à réanimer des organes de porc plus d'une heure après leur arrêt cardiaque. Expliquez-nous comment cela fonctionne, cette technologie potentiellement révolutionnaire, Yasmina Katou.
Eh bien, le sang est pompé de l'organisme du porc, filtré par dialyse, réoxygéné. La moitié de ce sang est ensuite mélangée à plusieurs composés chimiques, 13 au total, dont une partie est gardée secrète par les chercheurs. Ce cocktail est reperfusé pour rétablir la circulation du sang dans les organes. Grâce à ce système, le porc n'a n'a pas ressuscité de son arrêt cardiaque, mais les cellules de ses organes sont restées presque intactes. Une découverte qui pourrait révolutionner les transplantations, explique Jean-Étienne Bazin, professeur en réanimation à l'Université de Clermont-Ferrand.
L'organe le plus sensible, c'est le cerveau. On sait qu'après 3 minutes de non-vascularisation du cerveau, il y a des lésions qui sont irréversibles. Avec ce produit, l'expérience montre que même après 1 heure d'arrêt circulatoire complet, il y a une reprise totale de l'activité de ces organes, donc la potentialité de pouvoir les greffer.
Alors avant de savoir si ce système est utilisable chez l'homme, il faudrait que les organes de porc soient transplantés à d'autres porcs pour voir s'ils fonctionnent toujours normalement, tant pour le médecin. Il faudrait également s'assurer que le produit est bien toléré chez l'homme.
Les précisions de Yasmina Katou du service santé d'Europe 1.
Allez, c'est notre rendez-vous positif dans la matinale de l'été sur Europe 1. Toute la semaine, vous le savez, on fait le plein de bonne humeur avec ces travailleurs qui adorent leur métier.
Et qui savent transmettre leur passion au quotidien. Ce matin, rencontre avec un contrôleur SNCF qui a une double casquette. Il est également magicien, Tatiana Geiselman.
C'est un collègue de Lille qui m'a montré mon premier tour. Je m'appelle Herman Olivier, je suis contrôleur depuis 1987. Le métier passe d'abord, on fait d'abord nos affaires et après c'est plus pour détendre l'atmosphère dans les moments creux. Ou alors quand il y a des enfants très énervés, on s'arrête 30 secondes, on calme ses enfants avec un tour de magie et du coup les gens de la voiture sont tous contents.
Alors imaginons que je suis un enfant pas content, là vous pourriez me faire quel tour ?
Tout au début j'avais un portefeuille qui prenait feu. Ben ça par contre mon chef a eu très très peur et donc je me suis reporté sur les tours de cartes surtout. Je vais vous demander de tirer une carte et là vous voyez on a quelque chose qui n'est pas courant.
Un sac de noix ?
Vous allez choisir une noix, n'importe laquelle. Alors comme vous avez des mains occupées, je vais la casser.
Mais non. Il n'y a pas de noix dans votre noix.
Non, mais par contre...
Il y a ma carte.
La même, hein.
Bah oui, 9 bah de voilà. Cœur. 9 de cœur. Comment vous avez fait?
Je ne le dirai pas, je n'ai pas le droit de le dire.
Si, vous avez le droit, vous ne voulez pas.
Non, le truc des magiciens, c'est interdit. On n'a pas le droit. Ouais, petite annonce. Ça d'ailleurs c'est un tour de magie qu'on aimerait bien faire, c'est faire disparaître tous les colis abandonnés parce que ça fait pas mal de perturbations dans les trains, on s'en passerait bien à la SNCF.
Ça vous y arrivez pas encore alors?
Non, alors ça non non. Le jour où on trouvera un magicien qui le fera, je crois qu'il sera vite embauché à la SNCF parce que ça permettra beaucoup d'aider pas mal de choses.
Un appel à candidature alors?
Exactement.
Une rencontre magique, oui. Au micro de notre correspondante dans le Grand Est, Tatiana Geiselman.
Et pour finir ce journal, Mélina, le petit Nicolas qui est désormais orphelin.
Le dessinateur Jean-Jacques Sempé est décédé hier à l'âge de 89 ans. Il est parti paisiblement, entouré de ses proches et il aura marqué son art par son style inimitable, Marie Jiquel.
Son trait, précis mais modeste, sublimait l'innocence d'une enfance joyeuse, peuplée de copains et de bêtises, celle évidemment du petit Nicolas. Sorti de son crayon en 1960 et écoulé à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Un personnage culte créé avec son acolyte, le scénariste René Goscinny, son premier ami lorsqu'il débarqua à Paris. Connu par des générations d'enfants, amoureux de la nature avec toujours un arbre dans son décor, amoureux aussi de Paris, sans aura réussi à conquérir l'Amérique et son très chic magazine The New Yorker qui publia plusieurs de ses dessins en une. Une soixantaine d'albums de dessins, des dizaines de personnages issus de son imaginaire simple, élégant mais toujours humoristique, comme Marcelin Caillou ou Raoul Taburin. Sempé toujours dans l'ombre, son crayon toujours dans la lumière. Sempé va nous manquer, sa poésie aussi.
Et nous avions reçu Jean-Jacques Sempé sur Europe 1 en 2011. Il expliquait comment était né le petit Nicolas.
Un journal belge m'avait demandé un jour de leur faire des dessins en couverture. Et c'était fréquemment des dessins avec des enfants. Et un jour, le directeur de cette publication me dit « Il faudrait trouver un nom pour cet enfant. » Puis en prenant l'autobus, je vois « Les 20 Nicolas ». Et tiens, je me dis « Je vais l'appeler Nicolas, le petit gosse ». J'ai dit à René Goscinny, fais-le avec moi si tu veux. Et on s'y est mis, puis voilà.
Comme quoi, les bonnes idées peuvent venir de partout.
Les idées les plus géniales sont souvent les plus simples, effectivement. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. Tout à l'heure, 9h, Mélina. L'essentiel des sports maintenant.
Passionné de sport, c'est l'heure du journal des sports avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
le journal des sports avec vous Lucas Courtin. Bonjour Lucas.
Bonjour Lionel.
Alors on va commencer avec la Ligue 1 et le début de la deuxième journée ce soir en ouverture avec Nantes qui reçoit Lille.
Oui, et des Canaries qui ont timidement débuté leur championnat la semaine dernière en concédant le nul 0-0 sur la pelouse d'Angers. À l'inverse, les Dogs, eux, qui ont fait le plein de confiance face à Auxerre avec un carton 4-1. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse au milieu des deux clubs, c'est un joueur qui fait l'actualité, c'est Ludovic Blas. Le milieu nantais en discussion avec le LOSC n'a toujours pas trouvé d'accord pour un éventuel transfert. Pour l'entraîneur des Canaries, Antoine Comboiré, la situation ne pose aucun problème et Blas devrait être titulaire ce soir.
Le plus important, c'est qu'il est là avec nous et bien là, il sera donc présent sur la pelouse pour jouer ce match face à Lille. De toute façon, le plus important, ce sont les discussions que j'ai avec lui. C'est parler pour dire, Ludo, dans quel état d'esprit tu es ? Il m'a dit, coach, je suis à 100% disposé à jouer ce match. Un contrat, tant que c'est pas signé, il n'y a rien.
Le franc-parler d'Antoine Comboiré. Un coup d'envoi prévu à 21h au stade de la Beaujoire.
On passe au tennis avec le Masters 1000 de Montréal et une mauvaise nouvelle pour Gaël Monfils.
Ah oui, le Français était mené 7-0 mais avait réussi à faire le break dans la deuxième manche. C'était cette nuit et sur une reprise d'appui en plein milieu d'un point, Monfils s'est écroulé, visiblement touché sous la plante du pied droit. Il a été contraint à l'abandon. De mauvais augure à quelques semaines de l'US Open. Concernant les autres résultats marquants de la nuit, ça passe sans forcer en 2-7 pour le Canadien Félix Auger-Aliassime face à Cameron Norrie. Même chose pour l'Australien Nick Kyrgios, expéditif 6-2-6-3 contre son compatriote Alex de Minaur. En revanche, ça ne passe pas pour l'Italien Yannick Sinner, tête de série numéro 7 du tournoi, battu en deux manches par l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Chez les femmes à Toronto, grosse surprise après l'élimination de la numéro 1 mondiale Iga Świątek.
Ouais, effectivement. On termine avec les championnats d'Europe de natation. Première journée hier en Italie et première médaille pour le clan tricolore.
Mais oui, un exploit même avec cette très belle médaille de bronze remportée sur le relais 4 fois 200 mètres nage libre. Pourtant privé de Léon Marchand, la star, les 4 jeunes relayeurs français sont même passé tout proche de décrocher l'argent. Ça s'est joué dans les 20 derniers mètres face à l'Italie. Pour Adrien Salvan, le champion de France en titre du 200 mètres nage libre, cette médaille, c'est avant tout la victoire d'un groupe. Écoutez.
C'est super, on est content. On est content. On dit depuis un moment qu'on construit quelque chose. C'est sûr que dire qu'on construit quelque chose quand on n'est pas qualifié en finale olympique, c'est compliqué. Ça l'est un peu moins quand on fait 7e au monde, mais là, une médaille, ça vient concrétiser vraiment un travail important depuis quelques années. Voilà, on est un gros collectif et aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de faire un podium.
Adrien Salvan chez nos confrères de France TV.
Une bien belle génération cette équipe de France. On espère en tout cas qu'elle sera pas pour les JO de Paris dans 2 ans. Merci Lucas. C'était le jour.